Bonsoir Internet. Bienvenue dans Besoin de rien, envie de droit, le podcast de Binge Audio qui voit du droit partout, mais qui sait qu'il n'est pas nécessaire de parler latin pour comprendre ce qui se joue. Je suis Clara Cain sur Internet, et Clara Beniamine au barreau de Paris, et je suis avocate en droit de la propriété intellectuelle. Avec moi aujourd'hui, Anne-Charlotte Flech. Bonsoir, bonjour.
Bonjour Clara.
Bonjour. Alors Anne-Charlotte est avocate en droit de la propriété intellectuelle et en droit commercial. Et sachez mes jeunes amis, que Maître Flech et moi-même, nous avons partagé un mur pendant de longs mois. Un mur d'un bon millimètre d'épaisseur. Et ça, vous voyez, ça c'est connaître quelqu'un. Bref, avec nous également, on ne la présente plus, Nina Goss, bonjour.
Bonjour Clara.
Nina est avocate en droit de la création, en droit de la data, en droit des robots, etc., etc., etc. Elles sont très fortes, elles sont vives, elles sont affûtées. On va en avoir besoin pour répondre à la question du jour. Car aujourd'hui, nous sommes réunis pour aborder un sujet brûlant, un sujet déchirant, un sujet qui n'a pas peur des jeux de mots, car aujourd'hui, on se demande si on peut détruire les œuvres d'art. En effet, l'actualité est régulièrement bousculée par des événements du type « On a détruit un ballon géant à la hache Place Vendôme » ou encore « On a détruit un urinoir à coups de marteau dans un musée à Nîmes » et plus récemment, « On a détruit une toile à la déchiqueteuse à Londres ». Curieuse récurrence. Dans toutes ces hypothèses, il faut se demander, au-delà de la portée symbolique du geste, quelles sont les questions de droit qui se posent, que prévoit la loi française, sur quels principes se fonde le raisonnement. Alors aujourd'hui, toutes les trois, nous allons parler de la différence entre l'œuvre et son support, de l'idée qu'un artiste conserve un lien indéfectible avec sa création, et même de la question à 1 million de dollars, c'est quoi une œuvre ? Mais avant cela, écartons quelques branches du sujet pour les traiter dans un prochain épisode, qui sait. Nous laisserons donc de côté les destructions dites de conquête. Non, dans cet épisode, nous n'allons pas détruire Carthage, Palmyre ou les Bouddhas géants de Bimayan, mais si les historiens disent, au sujet de ces destructions de conquête, produire des décombres pour en finir avec ce qui encombre, concentrons-nous sur détruire les beaux-arts pour mettre le bazar. Nous n'allons pas non plus parler de destruction d'œuvres architecturales ou bien des modifications que celles-ci subissent. Pardon les copains, mais ça sera pour une autre fois. Alors, pour le moment, concentrons-nous sur les arts, sur les sculptures, sur les tableaux, la musique et même les livres et les films. Alors du coup, Nina, c'est quoi une œuvre ?
Ah, quelle question compliquée.
Vaste, hein ? 8 ans d'études.
Alors, selon Aristote...
Ah ouais ?
Non, justement, Aristote. C'est ce par quoi je voulais commencer. Deuxième petite clarification, je vais répondre en tant qu'avocate, car je ne suis que avocate. Je ne suis pas philosophe, parce que bien sûr, on pourra avoir plusieurs interprétations hein, de ce qu'est une œuvre d'art, selon la personne qui répond. On va se demander quelle est l'œuvre qui est saisie par le droit, finalement.
Mm-hmm.
Alors, il faut bien comprendre que l'œuvre d'art, il n'y a pas de définition légale vraiment de ce qu'est une œuvre d'art. On va avoir toute la réglementation fiscale, notamment le Code général des impôts, qui va nous donner des exemples d'œuvres d'art, qui va fixer des régimes fiscaux pour les biens d'art, pour les œuvres dites aussi de collection, les objets d'antiquité, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette législation.
Tu ne vas pas détailler ce matin l'ensemble de la législation fiscale.
Non. Mais voilà, il faut quand même dire que donc on retrouve cette notion d'œuvre d'art dans cette réglementation. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui davantage, c'est la définition finalement qu'en fait le droit de la propriété intellectuelle. Et là, il faut préciser que le code de la propriété intellectuelle, plus précisément le droit d'auteur, ne parle pas d'œuvre d'art, mais d'œuvre de l'esprit.
Alors, qu'est-ce que c'est une œuvre de l'esprit ?
Qu'est-ce qu'une œuvre de l'esprit ? Là encore, pas de définition à proprement parler, ou en tout cas une définition en creux, puisque le code de la propriété intellectuelle nous dit, entre guillemets seulement, que l'auteur d'une œuvre de l'esprit, donc mettons un peintre par exemple, un artiste, jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous.
C'est marrant, ce texte, c'est un peu notre tube.
C'est un peu notre tube, et en même temps, c'est vrai que je me mets à la place de quelqu'un qui ne fait pas de droit d'auteur, ça veut un peu rien dire. Alors, on semble comprendre donc en creux que c'est l'œuvre de l'esprit, c'est le produit d'une création consciente. Et donc, il n'y a pas, par exemple, de droit sur un élément qui serait préexistant. en théorie. Par exemple, l'archéologue, il n'a pas de droit d'auteur sur ses découvertes. Donc on a une définition large, finalement, enfin une définition, une affirmation large de ce qu'est l'œuvre de l'esprit, qui est complétée cependant par une espèce de liste un petit peu à la Prévert non exhaustive de différents exemples d'œuvres de l'esprit. Donc on va nous citer notamment les œuvres de dessin, la peinture, et on va aussi nous donner des critères qui sont indifférents à la protection par le droit d'auteur. Et ça, c'est important de le dire, parce que le juge, notamment, hein, quand il est amené à apprécier en cas de litige ce qu'est une œuvre de l'esprit, parce que c'est finalement qu'en cas de litige hein, qu'on va vraiment se poser la question, sont indifférents notamment le genre. Est-ce que c'est une œuvre littéraire ou musicale? Est-ce que au sein de la catégorie des œuvres littéraires, c'est de la poésie ou de la prose? C'est indifférent. Est aussi indifférent la forme d'expression, c'est-à-dire la manière dont l'œuvre est communiquée au public. Très important.
Mon préféré. Enfin, je sais que ça va être mon préféré.
Ça va être ça. Très important, le mérite.
Oui.
Clara, le juge, n'est pas un critique d'art. Et heureusement.
Moi non plus.
Heureusement. Moi non plus. Mais heureusement que le juge n'est pas un critique.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'indifférence du mérite ?
L'indifférence du mérite, ça veut dire que l'œuvre soit extraordinaire, que tu considères que c'est de l'art ou c'est pas de l'art, hein, on l'entend souvent dans les musées ou au sein du public, ce n'est pas un critère.
C'est pas ça qui compte.
C'est pas ça qui compte.
Qu'est-ce qui compte ?
Je vais le dire. Et dernier critère qui ne compte pas, la destination. C'est la théorie de l'unité de l'art. Ça veut dire qu'on traite de manière identique, des créations qui relèvent de ce qu'on appelle un peu l'art pur, l'art noble, les beaux-arts, des arts appliqués. Et c'est pour ça que, par exemple, le droit d'auteur a pu protéger, ça on le connaît très bien, un panier à salade. La forme du panier à salade, bien sûr, pas sa fonction utilitaire. Alors, est-ce qu'on a un espèce d'aveu d'impuissance du législateur ? Est-ce qu'on doit considérer que la notion d'œuvre d'art est extérieure au droit et qu'il ferait que la constater ? Non, et ce serait pas souhaitable, parce que en accordant un droit, en reconnaissant un droit d'auteur sur une œuvre, on reconnaît un monopole, un droit très fort, hein, on le verra avec Anne-Charlotte.
Un monopole pour qui, du coup ?
Un monopole pour l'auteur, donc par exemple l'artiste peintre, et un monopole qui est assez long dans sa durée. Donc il faut quand même pouvoir définir ce qu'est une œuvre, surtout que, une fois encore, c'est une notion qui va dépendre de la perception des personnes. Pour la petite anecdote, dans les années 20, l'oiseau de Brancusi avait été classé par les douanes américaines comme une hélice. Ils n'avaient pas voulu que ce soit une œuvre d'art, mais finalement Brancusi avait gagné. Donc on voit qu'il faut quand même avoir des petites clés hein, pour
moi,
comprendre.
Moi, je suis sûre que ça ferait très bien avancer un bateau.
Oui, c'est vrai. Le bateau d'un mécène en art, par exemple. Donc
le
voilà.
Truc absolu.
Beaucoup d'argent.
Moi, à m'en ai laissé un Brancusi. Ok.
Donc, l'œuvre étant au cœur du droit d'auteur, elle en est l'objet, il va falloir quand même qu'on dise ce que c'est.
Oui.
Donc, j'en viens aux critères qui comptent. Mmh. Finalement, la notion d'œuvre, elle va rarement être envisagée en tant que telle. La jurisprudence, elle la confond finalement avec son critère primordial, qui est l'originalité.
Alors, la jurisprudence, pour ceux qui n'auraient pas écouté les précédents épisodes où ça a été défini, c'est les décisions de justice qui ont d'ores et déjà été rendues par des juges et d'autres cours et juridictions. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'elle dit, la jurisprudence ?
Donc, la jurisprudence, elle a mis en lumière une condition d'originalité qu'elle utilise hein, depuis des décennies.
Donc, il faut que ça soit original.
Il faut que ça soit original. Ça veut dire, de manière très belle, que ça doit porter l'empreinte de la personnalité de l'auteur.
J'adore ce concept. Voilà.
À distinguer, attention, oui. De la nouveauté. C'est pas parce qu'une œuvre, entre guillemets, est un peu banale qu'elle n'est pas originale. Mmh. On peut avoir un sentiment de déjà-vu. Pour autant, elle peut être originale. Et cette originalité, c'est à l'auteur ou ses avocats de la prouver. Ce qui, parfois, bien sûr, est très dur. Hein,
parce tu sais, que... ce moment d'embarras de ton prof de propriété intellectuelle où tu lui fais... C'est-à-dire l'empreinte c'est de ça. La personnalité, c'est un concept philosophique, oui c'est ça, ok super.
Ça.
Non mais c'est vrai que, et c'est pas mal en fait que la notion soit assez floue et assez malléable et
bien
assez
sûr.
Mouvante, parce que ça permet de rien exclure a priori.
Bien sûr, surtout qu'on pourrait se demander si finalement il n'y a pas une opposition de nature entre le droit qui veut un peu figer les choses, uniformiser, avoir des critères, et puis l'art au contraire qui veut être audacieux, qui veut oser, qui veut bouleverser. Et donc on le voit, hein, d'ailleurs, c'est plus compliqué de définir une œuvre de l'esprit quand on est en présence d'une œuvre d'art conceptuelle que quand on est devant un tableau des Beaux-Arts. Et donc, c'est pour ça que c'est bien d'avoir une conception un peu mouvante et de pouvoir un peu influencer les juges là-dessus. Et donc, finalement, si on veut faire une définition, hein, la doctrine, donc c'est les auteurs
c'est
de droit.
C'est les gens qui écrivent sur le droit,
la doctrine. Ils réfléchissent toute la journée en se posant plein de questions tordues. Et donc, l'œuvre de l'esprit, on peut la définir comme finalement une création originale qui se concrétise dans une forme, une création propre à son auteur qui se concrétise dans une forme qui n'a pas forcément à être tangible. Mais il y a cette idée aussi, c'est un peu le second critère, d'être quelque chose quand même de concret.
De matérialiser,
même si ça peut être un parfum, hein, par exemple.
Bien sûr. Voilà. C'est pour ça qu'on a un petit slogan qui est « Les idées sont de libre parcours », qui est qu'une idée n'est pas protégeable. Donc arrêtez de demander à vos copains avocats comment vous faites pour protéger votre super concept.
Donc une idée, un concept pub, par exemple, n'est pas protégé par le droit d'auteur.
Il y a d'autres choses. Okay.
Et il y a une petite définition que j'aime bien si on doit conclure avec ça. C'est une historienne de l'art, Raymond Moulin, qui nous la donne. Et si on veut s'éloigner un petit peu du droit, qui nous dit que le bien d'art, finalement, c'est un bien unique, insubstituable et néanmoins aliénable, un bien de jouissance quasi indestructible, car le regard qui le contemple ne l'altère pas. Donc il y a quand même cette idée de rareté. Le marché de l'art est un marché de la rareté.
Bon, on a tout dit, c'est fini pour cet épisode.
Non, mais j'aimais bien cette citation, je voulais la connaître.
Non, elle est magnifique. Bref, donc là, on a défini la création immatériel, puisque quand on parle d'une œuvre, on parle d'un bien immatériel, d'une création immatérielle. Néanmoins, il va bien falloir qu'elle se matérialise quelque part, cette œuvre. C'est le moment où on se met à parler du support. Et donc, Anne-Charlotte, est-ce que tu pourrais nous éclairer un peu sur la distinction entre l'œuvre et son support ?
Je vais essayer. Et je pense que pour répondre à cette question, il faut se référer au Code de la propriété intellectuelle, la loi française, qui consacre le principe d'indépendance de propriété corporelle et incorporelle.
D'accord, ça veut dire que c'est distinct, c'est pas la même chose.
Voilà, je vais donner un exemple parce que ce sera plus facile. Mm-hmm. Donc pour reprendre l'exemple de Nina tout à l'heure, on va prendre par exemple un artiste qui réalise un tableau avec des matériaux qui lui appartiennent, donc il l'a acheté, notamment.
Donc il est allé au magasin et il a acheté une toile et puis de la peinture.
Exactement.
Okay, d'accord, donc ça lui appartient.
Voilà, okay. Il est propriétaire du support matériel, donc de la toile, et il sera également propriétaire de l'œuvre qu'il va réaliser sur cette toile.
D'accord.
Voilà, donc en gros, et comme tu le disais, il y a deux droits de propriété, l'un qui porte sur le bien meuble corporel, la toile, dans notre exemple, et l'autre qui porte sur le bien meuble incorporel, donc l'œuvre de l'esprit, donc originale, comme l'a dit tout à l'heure Nina, qui est incorporée au support.
Et je vais me permettre de préciser, en fait, il ne faut pas se dire d'un côté il y a la toile et de l'autre côté il y a la peinture. Non, la toile et la peinture sont du même côté, sont sur le support matériel. Et en fait, l'œuvre, c'est pas la peinture, c'est plutôt l'empreinte de la personnalité que l'auteur va manifester sur la toile au moyen de la peinture. Mais voilà, la distinction, elle est là. Mmh. Elle est entre les trucs corporels terrestres et la création qu'on va mettre dans la toile. Tout ça est un peu mouvant, mais voilà, c'est important de bien comprendre ça.
Et donc, la question de la propriété du support et de l'œuvre se pose notamment lorsque l'artiste vend son œuvre à un tiers.
D'accord.
Donc, l'acquéreur, dans ce cas-là, devient propriétaire du support matériel, donc dans notre exemple, de la toile. Mais en vertu du principe qui est posé donc, par le Code de la propriété intellectuelle, l'acheteur n'est investi d'aucun des droits moraux ou patrimoniaux qui sont accordés par le Code de la propriété intellectuelle
à
l'auteur.
On va le développer longuement après.
Et l'acquisition du coup d'un tableau n'entraîne pas la cession des droits d'auteur à l'acheteur. Et donc, un propriétaire donc, qui a acheté une œuvre peut très bien l'exposer dans son salon, il n'y a pas de souci. Mais il ne pourra pas l'exposer au public, donc à un cercle qui dépasse le seul cercle de la famille ou des amis, ou le reproduire dans un ouvrage sans l'autorisation de l'auteur dès lors que cette œuvre est encore protégée par le droit d'auteur.
Et alors, la protection du droit d'auteur, en gros, c'est 70 ans après la mort de son auteur.
Exactement. Voilà. Et
donc c'est long, hein. Ça peut être très très long.
Ça peut être très long. Exactement. Et donc les droits de propriété intellectuelle sont opposables à tous, et donc, vous l'aurez compris, y compris aux propriétaires du support matériel de l'œuvre. Et alors même que, en principe, le propriétaire d'une chose matérielle, hein, donc un bien meuble corporel, une chaise par exemple, jouit classiquement de trois prérogatives, donc trois attributs sur cette chose.
Sur cette chaise.
Exactement, que sont l'usus, le fructus et l'abusus.
C'est la première fois qu'on parle latin dans cette émission, je suis tellement contente. Merci du latin.
Mais je t'en prie, mais je vais définir du coup. Et donc le propriétaire de cette chose mobilière, de la chaise, pour en revenir à cette chaise, peut donc en user. Donc l'utiliser.
Il peut s'asseoir dessus.
Voilà, exactement. Il peut en retirer les fruits, donc la louer. Hein, si,
Il peut louer sa chaise et collecter les loyers.
Exactement.
Okay.
Et il peut en disposer. Donc il peut la vendre, mais il peut aussi la détruire s'il en a envie. Et donc, tout l'intérêt du droit d'auteur, c'est que l'œuvre n'est pas un bien comme les autres.
Comme la chaise.
Exactement. Et que les droits de propriété intellectuelle dont dispose l'artiste sur son œuvre, en fait, viennent limiter les droits du propriétaire matériel du support.
Donc en fait, on se retrouve à avoir plusieurs droits de propriété qui s'empilent sur le même truc.
Exactement.
Sur la même. Enfin, alors là, c'est un tableau. Mais donc, du coup, voilà, moi, j'ai acheté la toile dans une galerie. Donc, je suis propriétaire du support. Mais je ne serai jamais propriétaire de l'œuvre. L'œuvre, elle reste à l'artiste.
Tout à fait. Sauf cession.
Sauf cession. Et donc, c'est ce qui m'empêche, moi, si j'ai hyper envie... on va donner un exemple exprès un peu bête, hein, mais si vraiment sur le tableau, je trouve que ça serait hyper chouette. Si je rajoutais un peu de rouge, là, je ne peux pas le faire pour cette raison-là.
Voilà.
OK.
Mais il y a la théorie et la pratique.
Il y a la théorie et la pratique.
On y reviendra tout à l'heure.
Tout à fait. Ok, est-ce que tu pourrais nous faire un micro-brief sur la différence entre les œuvres qui sont reproduites et les œuvres qui ne sont pas reproduites ?
Alors, on va donner un exemple tout bête. Par exemple, un écrivain donc, qui a un manuscrit, il compte le faire publier. Donc, le manuscrit est un exemplaire unique de son œuvre. Mmh. Ce manuscrit ne peut pas être détruit. Hein, du fait des droits de propriété intellectuelle dont dispose l'auteur. En revanche, bien évidemment, l'exemplaire qui sera commercialisé peut tout à fait être détruit. Ça ne pose pas de problème en tant que tel à ce niveau-là.
Donc très bêtement, j'ai tout à fait le droit de jeter, déchirer, écrire sur un bouquin que j'ai acheté. Par contre, si j'ai acheté un tableau original... Dans la théorie et dans la loi.
Dans la théorie,
ouais. Oui, ben c'est ça. C'est si le truc il est chez toi, que tu as fermé la clé et que personne ne se rend jamais compte que tu l'as ouvert en deux. Bon. Donc voilà, donc sur une œuvre qui est unique, donc qui n'est pas reproduite pour les besoins de sa commercialisation, comme peut l'être une chanson ou un livre ou même un poster d'une œuvre, tu vois, le poster de Monet, comme on disait juste avant d'allumer les micros, tu as tout à fait le droit d'écrire dessus si tu as envie. Donc l'œuvre reproduite, tu peux la détruire, la casser, écrire dessus, il n'y a pas de souci. L'œuvre non reproduite, tu n'as pas le droit parce que tu n'es propriétaire que du support et pas de l'œuvre. Donc tu n'as pas le droit de venir altérer ce qui ne t'appartient pas.
Exactement.
Très bêtement.
Et comme on y reviendra tout à l'heure, on se retrouve donc avec deux droits de propriété qui peuvent appartenir à des personnes différentes et ces deux droits de propriété doivent donc coexister. Voilà.
Ok. Mais est-ce que tout à l'heure, ça ne serait pas maintenant ? Puisque du coup, oh, c'est bien fait, c'est bossé. On va passer un petit moment désormais. Là, en fait, c'est marrant parce que pour tous les étudiants et pour tous les gens qui pratiquent le droit d'auteur, c'est un peu genre le grand plan de l'année d'études de Master 2. Maintenant, on va vous expliquer quelles sont les différences entre le droit patrimonial et le droit moral. Encore une fois, nos grands tubes à nous. Donc, on va commencer par le droit patrimonial. Nina, tu nous expliques un peu ?
Je vais expliquer. Alors, je vais faire très simple et très court, surtout que c'est entre guillemets pas le droit le plus intéressant pour le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Donc je laisserai la parole à ma consœur sur le droit moral qui est tellement plus fun.
On s'appelle consœur, super.
Oui. Donc consœur, ça veut dire non. Droit patrimonial. Donc le monopole, hein, ce fameux droit exclusif que j'ai cité tout à l'heure, dont bénéficie tout auteur sur son œuvre, ça veut dire qu'il va avoir en fait des droits économiques et des droits moraux. Les droits économiques ou droits patrimoniaux, c'est en fait le droit de se faire de l'argent avec son œuvre. Hein, faut bien vivre. Et donc en fait, ça recouvre deux grands types de droits. Donc on a tout d'abord le droit dit d'exploitation, qui est d'une part le droit de représenter l'œuvre, donc de la communiquer au public, que ce soit par exemple une projection pour un film, ou je sais pas, par une exposition pour une peinture. et aussi le droit de reproduction, c'est-à-dire de fixer matériellement l'œuvre pour la communiquer au public aussi. Donc par exemple, un DVD est une reproduction. Donc voilà, c'est le deuxième type de droit d'exploitation. Alors bien sûr, il y a des exceptions à ces droits, par exemple le droit de citation, le droit de revue de presse pour les journalistes.
Vaste sujet.
Voilà, je ne vais pas rentrer dans les exceptions, mais il y a des exceptions.
Je pense qu'on fera un épisode entier sur les exceptions du droit d'auteur.
Et il y a aussi un
autre
droit...
Est-ce que j'ai le droit de citer 3 secondes de la chanson dans ma vidéo YouTube?
Difficilement. Mais ça va intéresser beaucoup de personnes. Moi, j'ai tout le temps des amis qui me le demandent.
Ah, tout le temps, 20 fois par jour.
20 fois par jour. Et après, il y a un autre grand droit dans les droits patrimoniaux qui est le droit de suite. Alors ça, ce droit existe que pour les œuvres d'art graphique et plastique. Et en fait, c'est un droit pour l'auteur de participer au produit des ventes ultérieures d'une œuvre dès lors qu'il y a un professionnel du marché de l'art qui intervient. C'est vraiment pour associer l'auteur et ses héritiers finalement à la plus-value, à la spéculation dont peut faire l'objet d'une œuvre. Et ces droits, ils existent, comme tu l'as dit tout à l'heure, toute la vie de l'auteur et 70 ans après sa mort. Ça, c'est le droit commun. Il y a une fois encore des petites exceptions pour le point
oui,
de départ.
Notamment, est-ce que tu as fait la guerre? Est-ce que machin?
Oui, est-ce que c'est une œuvre collective? Bon, on va pas rentrer là-dedans. Et bien sûr, ces droits peuvent être cédés. Hein. Nous, on a souvent des contrats de cession de droits d'auteur. Donc typiquement, un scénariste qui fait un film cède ses droits au producteur. Enfin, en tout cas, ses droits patrimoniaux.
Exactement. Parce que l'auteur d'une œuvre de l'esprit dispose également de prérogatives, donc de droit moral. Le droit moral, en fait, c'est une sorte de lien entre l'auteur et son œuvre. Et ce droit moral permet à l'artiste de défendre sa personnalité telle qu'elle est exprimée dans son œuvre.
Donc l'empreinte de sa personnalité, ce qu'on disait tout à l'heure, qui est donc la substantifique moelle de l'œuvre.
Exactement. Le droit moral a donc pour caractéristique, et c'est assez logique, d'être attaché à la personne de l'auteur. Donc c'est-à-dire que seul l'auteur peut l'exercer. C'est un droit qui est perpétuel, à la différence des droits économiques définis par Nina.
Donc il dure... En théorie, pour toujours.
En théorie.
C'est-à-dire que même si l'artiste est décédé depuis 200 ans, si jamais il a bien organisé les choses et qu'il a une fondation, la fondation peut encore exercer ses droits pour toujours. Ça ne s'arrête jamais. Enfin, théoriquement, hein.
Théoriquement, il est perpétuel. Ouais.
Théoriquement, il est perpétuel. C'est vrai qu'au bout de 5 générations, ça commence à être compliqué. Mais voilà, ça fait partie des choses vraiment centrales qui est qu'aujourd'hui, les gens qui exercent le droit moral de Mozart, c'est arrivé il y a quelques années, peuvent encore s'opposer quand il y a une nouvelle mise en scène d'une œuvre qui leur plaît pas. Je sais plus sur lequel c'était, mais en gros, c'est la Scala qui a fait une mise en scène très, très, très contemporaine avec de la drogue et des meurtres de je sais plus quelle œuvre, Honte à moi. Et les héritiers de Mozart, alors les personnes qui exercent ces droits, s'ils sont opposés, je crois qu'ils ont eu gain de cause, j'aurais dû vérifier.
Il y avait eu un cas très connu aussi avec les héritiers de Victor Hugo.
Oui, tout à fait.
Contre, je ne sais plus non plus, c'était Notre-Dame.
Contre une suite, je ne sais plus exactement.
Non, n'importe quoi, Les Misérables. Il y avait eu une suite, mais ils avaient perdu. Mais il y a des cas connus.
Bref, totale interruption d'Anne-Charlotte, nos confuses continuent.
Donc en gros, le droit moral, à la différence des droits patrimoniaux, ne tombe pas dans le domaine public. Mmh. C'est également un droit qui est inaliénable, c'est-à-dire que l'auteur ne peut pas le céder à un tiers, même s'il le voulait. Et ce droit est en théorie imprescriptible, c'est-à-dire qu'il ne se perd pas non plus par le non-usage. Donc, tel qu'indiqué précédemment, le droit moral est opposable à tous, donc y compris le propriétaire du support matériel de l'œuvre, qui doit donc respecter les droits de l'auteur. Ce droit moral est composé de 4 attributs, et je vais aller très vite. Donc, un droit de divulgation. Ce droit de divulgation permet à l'auteur et à l'auteur seul de décider du moment et de la façon dont son œuvre sera communiquée au public. L'auteur dispose également d'un droit de retrait et de repentir. Donc, ça lui permet, en gros, de revenir en arrière et de retirer une de ses œuvres de la circulation. On peut donner l'exemple d'une œuvre de jeunesse qui ne lui plairait plus. Par contre, c'est un droit qui concerne peut-être un peu plus le milieu de l'édition et qui, en pratique, est très rarement mis en œuvre puisque la loi exige que l'auteur indemnise préalablement la personne à laquelle il a cédé ses droits d'exploitation.
C'est-à-dire que si jamais un peintre a envie de racheter tous ses tableaux, techniquement, les acquéreurs ne peuvent pas s'y opposer. Par contre, il devra les indemniser, donc c'est-à-dire il devra leur donner une somme d'argent qui correspond au cours du marché actuel. Donc, encore une fois, on en a parlé quand on a préparé l'émission, je n'ai pas vérifié, mais il y a, je ne sais plus trop quel peintre, je crois que c'est Vermeer, qui en fin de vie a décidé de racheter tous ses tableaux et qui a fait une banqueroute fabuleuse et a fini dans un dénuement total. Bref. Sympa.
Exactement. Pour en revenir du coup aux prérogatives du droit moral.
Merci, heureusement que vous êtes là pour recentrer un peu parce que sinon.
L'auteur dispose aussi d'un droit à la paternité, donc en gros qui lui permet d'exiger que son nom soit associé à son œuvre. Mais c'est aussi à l'inverse le droit pour l'auteur de publier de façon anonyme ou d'utiliser un pseudonyme.
Sous pseudo.
Voilà. Et enfin, et c'est, je pense, le droit qui nous intéresse le plus aujourd'hui, l'auteur dispose d'un droit au respect de son œuvre. Donc ce droit au respect de son œuvre vise de façon très large toutes les atteintes qui pourraient être portées à son œuvre, c'est-à-dire des atteintes à l'esprit de l'œuvre. L'œuvre ne doit pas être présentée dans un contexte qui peut la déprécier, qui peut la dénigrer ou qui en affecte le sens. Et bien évidemment, ce droit permet aussi à l'artiste de protéger son œuvre contre toutes les atteintes matérielles et même minimes. C'est-à-dire que l'œuvre ne peut pas, en théorie, être modifiée, être altérée, mutilée et encore moins détruite.
Détruite, brûlée, piétinée. Ok, maintenant qu'on a tout bien cadré, on va aborder ensemble quelques cas historiques dont vous avez peut-être entendu parler, qui ont marqué l'histoire de l'art. Et notamment, la première affaire extrêmement connue est une affaire d'urinoir, Nina.
Donc, effectivement, une affaire, enfin une double affaire en réalité, qui est très connue sur ce sujet. C'est donc l'urinoir de Marcel Duchamp. Alors là, c'est un cas un peu particulier, parce qu'on est dans une destruction que j'appellerais créatrice. C'est-à-dire que c'est pas...
Ouais, telle que revendiquée, oui.
Telle que revendiquée. Non, mais en tout cas, on n'est pas dans une destruction, moi, qui me gêne beaucoup, qui serait... qu'il faudrait débarrasser l'espace public de ce qui nous dérange.
C'est vrai.
Ça me gêne beaucoup.
Ça, c'est pas du tout ça,
voilà.
Effectivement.
Là, on est plus... Donc, c'est un artiste comportemental, Pinoncelli, qui est très connu pour des happenings coup de poing, notamment envoyer plein de peintures dans la tête de Malraux lors de l'inauguration du musée Chagall, qui, là, a décidé, alors une première fois à Nîmes, au début des années 90, qu'il allait faire pipi et donner un coup de marteau sur le très connu urinoir, hein, je ne le présente pas, de Marcel Duchamp. Puis il récidive, malgré une condamnation pénale, en 2006, lors de l'expo Dada au centre Pompidou. Alors cette fois, il n'a pas fait pipi, mais je crois qu'il a écrit Dada et brisé une fois de plus cette urinoire.
Il y a un commentaire hyper drôle que j'ai trouvé dans un article juridique très sérieux qui est « En effet, si uriner dans un urinoir peut rendre l'objet exposé comme œuvre d'art à son usage premier, nul ne peut prétendre qu'une pissotière s'utilise à coups de marteau. »
Oui, parce que on va pas rentrer dans le détail, cette affaire mériterait 3 heures de podcast, mais ce qui est très intéressant, c'est que lui, il estimait qu'il redonnait effectivement sa fonction initiale, comme le voulait finalement Duchamp, puisque Duchamp avait dit mais l'idée c'est de prendre un objet, un artefact. En plus là, c'est même pas l'original, hein, c'est des copies d'urinoir, parce que l'original avait été perdu. Donc c'est rendre
sa
fonction initiale.
Il était là, il est plus là,
initiale.
On sait pas où il est.
Voilà. Donc d'ailleurs, cette affaire a suscité tout un débat sur l'originalité. Est-ce qu'un ready-made est une œuvre de l'esprit? Il n'y a pas vraiment de réponse, parce que là, on a été sur des condamnations pénales.
Un épisode de 8 heures bientôt là-dessus.
Voilà. Pour dégradation d'un bien appartenant à autrui, qui plus est à un musée et donc à une personne publique. Mais il y a eu quand même sanction et puis les frais de réparation étaient assez élevés finalement pour une pissotière.
Tout à fait. Donc ça, c'était l'histoire de la pissotière. On avait dit qu'on parlait de quoi après? Ah oui,
de Saï Tombly aussi.
Le baiser sur la toile de Saï Tombly ou rouler des pelles à des tableaux. Est-ce que c'est sympa?
Bah, c'est une autre destruction créatrice, donc c'est bien de les enchaîner. Cette fois, c'était l'artiste Rindy Sam qui a été prise d'une envie incontrôlable d'embrasser une toile blanche de Saï Tombly qui était exposée chez Yvon Lambert à Avignon.
Donc un monochrome blanc immaculé.
Un monochrome blanc immaculé, donc le blanc était vraiment très important.
Très très blanc.
Voilà. Et elle l'a embrassé et elle a reconnu son acte, mais elle estime que c'était un acte d'amour et artistique. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo. Alors, la personne a été condamnée sur le même fondement que dans l'affaire Duchamp, c'est-à-dire pour dégradation d'un bien appartenant à une collection publique, publique, mais un bien exposé dans un lieu public, et que la collection Yvon Lambert a répliqué en présentant une expo qui s'appelait « J'embrasse pas ». Donc c'est assez rigolo de répliquer comme ça.
Oui, et d'ailleurs, pour les petites blagues, elle dit, donc la jeune artiste Rindy Sam, dit « Bien sûr que l'artiste va comprendre ma démarche parce que j'ai été transportée par
son
art. »
Il ne l'a pas comprise. Il n'a pas la même idée.
Il s'est dit « horrifié ».
Bon, les goûts, les couleurs, le rouge à lèvres, tout ça. Dans les affaires qui ont aussi défrayé la chronique et à côté de laquelle vous n'avez pas pu passer, il y a eu donc l'histoire de ce grand ballon gonflable en forme d'arbre, hein, de Paul McCartney qui était place Vendôme, et où, alors on ne sait pas si c'est des riverains ou alors des gens d'une joaillerie d'à côté ont trouvé que c'était pas de très très bon goût, ce très grand arbre, et donc du coup sont allés mettre des grands coups de hache.
Comme tu dis arbre, personne ne se rappelle du cas. Il faut dire ça ressemblait. Bah non, parce que sinon, personne va se souvenir.
Est-ce que j'ai envie de dire ça? Je sais pas. Bon, en gros, ça ressemblait clairement...
C'était quelque chose de phallique. C'est...
Alors non, est-ce qu'on a ce débat maintenant?
Non, bon d'accord.
Bon bref, voilà. En gros, il y avait un grand ballon qui ressemblait un peu à un plug anal qui était place Vendôme, donc une place très très chic à Paris, dans le Monopoly, c'est une des cases les plus chères. Très bon outil de mesure. Et donc du coup, ça a soulevé un nombre de plaintes du fait que quand même c'était pas très très correct, et ça a fini par donner lieu plusieurs fois, je crois qu'il y a eu deux fois, des gens qui sont allés mettre des coups de hache dedans. Donc la première fois, on a réparé le ballon, on l'a regonflé. La deuxième fois, on s'est dit que bon non, ça y est, c'était fini. Voilà, Paul McCartney, son œuvre a été dégonflée par des gens qui étaient gênés par l'idée. Et on va aborder une dernière anecdote, un dernier cas de l'histoire de l'art, qui est le Dirty Corner d'Anish Kapoor. En deux mots, Anish Kapoor est un artiste qui est connu pour faire des œuvres monumentales. Notamment, il a fait des œuvres qui occupaient l'intégralité de la Grande Nef du Grand Palais. On est sur des choses un peu comme ça. Et il avait placé à Versailles, alors comment vous décrire ça, un espèce de tunnel qui symbolisait la sensualité, la féminité, le fait d'être allongé dans l'herbe. Et certaines personnes ont trouvé ça bof mignon. Et donc sont allées taguer des choses elles-mêmes bof mignonnes dedans. Je vous laisse aller regarder. Maintenant qu'on a parlé de plug anal, on va pas en plus se rajouter des insultes antisémites. Hein. Il est un peu tôt pour ça. Mais voilà. Donc c'est ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que dans les hypothèses qu'on a là, ce sont des gens qui sont extérieurs à l'œuvre, qui sont... Alors, ne commencez pas à crier, oui, il existe des cas dans l'histoire de l'art où ce sont des gens qui ne sont pas extérieurs à l'œuvre.
Il y a plein d'autres cas où c'est des personnes extérieures.
Et il y a mille autres cas.
On n'allait pas tout citer.
Exactement. Mais, donc l'idée, c'est que là, on voit que ce sont des gens qui ne sont ni l'artiste, ni le propriétaire, ni le galeriste, ni quelqu'un qui est parti pris d'une quelconque façon à l'œuvre, et qui sont très émus par cette œuvre, en bien, en pas bien. Donc, c'est-à-dire, ça peut aller de mettre des coups de hache dedans à embrasser l'œuvre. Et donc, ces personnes-là sont tellement émues, sont tellement dépassées par leur émotion, qu'elles vont aller mettre leur touche, donc qui va de la destruction au bisou. Et... tout ça, c'est très différent de l'affaire qui a motivé cette émission et dont tout le monde a entendu parler ces dernières semaines, qui est une certaine affaire qui s'est passée à Londres, dans une certaine maison de vente, avec une certaine broyeuse à papier. Et c'est Anne-Charlotte qui va nous raconter ce qui s'est passé.
Donc, comme tout le monde le sait, le 5 octobre dernier, une vente aux enchères a été organisée. Une œuvre de Banksy a été présentée. Elle a été adjugée pour plus d'un million de livres. Mais quelques instants seulement après avoir été adjugée, un mécanisme caché à l'intérieur du cadre de l'œuvre a été actionné à distance et a procédé donc à la lacération partielle de l'œuvre. Juste le terme adjudication, tu ne me l'as pas demandé, mais je compte bien le définir. Donc...
Excuse-moi, j'étais vraiment passionnée par ce que tu racontais, je me ramollis. Qu'est-ce que
je suis touchée.
C'est quoi une adjudication, Anne-Charlotte?
En fait, l'adjudication, dans le cadre d'une vente aux enchères, c'est ce qui marque le transfert de propriété du bien mis en vente. Et ce transfert de propriété intervient quand le commissaire-priseur, donc celui qui dirige la vente, prononce le terme adjugé qui s'accompagne du coup de marteau.
D'accord, donc voilà. En fait, au moment où le ou la commissaire-priseur dit adjugé et tape avec son marteau, la propriété du support passe de la personne qui a mis le tableau en vente à la personne qui vient de faire la plus haute offre.
Exactement.
Ok, donc très bien. Donc pile après le moment où la propriété est désormais au nouveau propriétaire, oh, c'était une très jolie phrase ça. Nickel. Pile à ce moment-là, donc du coup, la toile s'auto-détruit partiellement.
Exactement. Donc juste pour recontextualiser, Banksy s'est exprimé le lendemain de la vente, enfin de ce happening, en publiant une vidéo sur son compte Instagram. Et donc il explique clairement qu'il avait installé, enfin construit et installé une déchiqueteuse à l'intérieur du cadre dans l'éventualité où l'œuvre serait un jour mise aux enchères.
Donc pour protester contre cette démarche.
Bah après, on peut interpréter effectivement les convictions qui ont pu motiver voilà, l'installation et la destruction de l'œuvre. Oui.
Qu'est-ce que ça pose comme question, ça, en termes de droit ?
Alors, ça en pose plusieurs. Et le problème, c'est que tout ça est assez opaque. On ne connaît pas les conditions exactes. Et nous, les juristes, on est dans le petit détail hein, pour apprécier une situation.
Oui, on va faire que spéculer. Hein, là, on n'a pas
spéculer.
De solution.
Donc, première spéculation, notamment suite à ce qu'a pu dire Banksy sur son compte, sur les réseaux sociaux, c'est que peut-être, effectivement, il y avait une clause dans la vente initiale qui interdisait une vente, dans la clause du contrat de vente initiale pardon,
donc
de
en fait,
Banksy
ouais,
au
c'est
premier
ça.
Acheteur, qui peut-être interdisait une revente via les enchères, parce qu'on sait notamment qu'il y a beaucoup de street artistes qui n'aiment pas trop ce côté un peu spéculation de leurs œuvres, etc.
Et puis vraiment, le côté, on l'enlève à la rue pour le
c'est
mettre
ça.
Dans les endroits les plus chics du
c'est
monde.
Ça. Vois, il y avait d'ailleurs un artiste italien qui avait retiré toutes ses œuvres pour s'opposer un peu à leur appropriation par la ville. Donc, c'est possible qu'il y avait une telle clause. C'est possible aussi, éventuellement, d'argumenter sur le fait que le droit moral est atteint parce qu'il y a une dégradation un petit peu, une atteinte au droit moral en le mettant en vente aux enchères. Bon, ça, c'est un peu spéculatif parce qu'on ne sait pas trop. On pourrait aussi se demander donc si l'acheteur a un recours contre l'artiste ou s'il en a un contre la maison de vente. Est-ce qu'elle a bien fait son job ? Est-ce qu'il pourrait intenter une action pour annuler la vente ? Est-ce qu'il pourrait contester la validité de la vente, la remettre en question et en plus, engager la responsabilité de la maison de vente pour faute, pour complicité, pour négligence, on ne sait pas trop. Apparemment, l'œuvre aurait été authentifiée par le comité pest control de l'artiste. Donc, a priori, elle a bien fait son job. On ne sait pas trop. Il y a un peu beaucoup de spéculations.
Anne-Charlotte, tu me disais que toi, tu es allée regarder le catalogue de vente qui est encore disponible en ligne.
Oui, tout à fait. Alors, le catalogue de vente précise que l'œuvre a été acquise par le vendeur initial directement auprès de l'artiste. Donc, ce n'est pas Banksy qui a mis en vente son œuvre pour faire ce happening. Il aurait très bien pu envisager cette possibilité. Le comité pest control a donc effectivement authentifié. Donc
oui,
c'est le comité
vrai, c'est
créé
pas
par
control.
L'artiste.
Okay. Voilà. Donc en fait, Banksy a créé lui-même un groupement de personnes qui sont chargées d'authentifier les œuvres.
Qui sont chargées d'authentifier et sur son site, il présente également ce comité comme le seul biais pour acquérir ces nouvelles œuvres d'art, même si il n'y a jamais d'œuvres d'art en vente. Enfin, en tout cas. Pour le moment. Et il était également indiqué que le cadre de l'œuvre avait été installé par l'artiste. Et je pense que...
Donc le cadre, le carré en bois qui est autour de l'œuvre, quoi.
Exactement.
Excusez-nous, c'est un peu basique. Hein, mais...
Et je pense que... mais ça, c'est une théorie. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'autodestruction de l'œuvre, comme si l'œuvre, en fait, c'était seulement la toile sur laquelle est dessinée donc, la petite fille avec le ballon. Mais pour moi, le cadre et la déchiqueteuse qui ont été intégrés par l'artiste... font également partie intégrante de l'œuvre. Et d'ailleurs, c'est l'ensemble qui était vendu. Donc, pour moi, mais c'est une supposition, Banksy a peut-être voulu créer une œuvre évolutive. Et donc, une œuvre évolutive donc, qui se modifie quand on l'expose. Voilà. Et donc, cette évolution, en fait, était conditionnée à un événement qui est incertain, c'est-à-dire la mise en vente de l'œuvre aux enchères. Pour moi, en fait, l'artiste a juste fait... c'est juste un exercice de sa liberté de création, de sa liberté d'élaborer et de concevoir et de réaliser l'œuvre telle qu'il la souhaite. Et l'activation de ce mécanisme, on peut effectivement l'interpréter comme une volonté de soustraire son œuvre à toute spéculation, mais aussi de ridiculiser potentiellement le marché de l'art, dont il dénonce régulièrement les dérives. Mais pour moi, ça interroge aussi sur la définition d'une œuvre, en fait, tout simplement.
Tout à fait. Après, alors, on va se faire peut-être complotiste, hein, mais
J'ai du mal à croire, spécialement dans une période où on est très inquiet sur les questions du terrorisme, etc., et où il est systématique que les maisons de vente désossent les toiles, vérifient tout ce qu'il y a dedans, etc., que la toile soit rentrée avec littéralement du métal dedans. Donc, c'est-à-dire que juste tu passes un détecteur de métal, tu te rends compte qu'il y avait quelque chose de pas très normal là-dedans. Donc, que la toile n'ait pas été, que l'œuvre n'ait pas été démontée pour vérifier qu'il n'y avait pas un problème, qu'il n'y avait pas quelque chose qui a rien à faire là. Je ne sais pas si je suis claire, mais je ne vois pas comment est-ce que la maison de vente a pu laisser passer...
Apparemment, elle n'aurait pas eu le droit de la démonter, cette fois. Mais bon, c'est vrai que le poids, on peut s'interroger. Vois, le et en poids... même temps, c'est tellement une mise en cause de sa crédibilité, on ne sait pas.
Bien sûr. Non, oui. Non, mais attendez, on ne met en cause la crédibilité de personne, ce n'est pas la question. Mais je veux dire, déjà, moi, je ne peux pas rentrer dans un magasin sans qu'on fouille mon sac. Est-ce que vraiment on laisse rentrer dans une pièce où il y a que des multimillionnaires un truc qu'on n'a pas fouillé et qui pèse anormalement lourd? C'est même plus un cheval de Troie à ce niveau-là.
Il y a des commentateurs complotistes aussi qui disent que comme par hasard ça a été très bien filmé, on voyait bien le logo de la maison de vente. Bon, moi je sais pas.
Est-ce qu'après on peut aussi se poser la question de comment la batterie a pu tenir de si longues années, voilà.
Oui, c'est ça, parce que moi, mon téléphone, il tient 24 heures.
Après, je pense qu'on n'aura pas les réponses, parce que vu que l'œuvre apparemment a doublé de valeur, je ne suis pas sûre que l'acheteur veuille faire un recours.
Oui, c'est ça. C'est quelque chose que Anne-Charlotte a très, très intelligemment soulevé quand on préparait l'émission. Et d'ailleurs, elle va nous l'expliquer. Est-ce que, du coup... Tu sais, c'est sur la question de... Est-ce que l'acheteur pourrait faire annuler la vente? Et même, est-ce qu'il y a intérêt?
Apparemment, donc c'est une acheteuse, apparemment elle aurait confirmé la vente parce que l'œuvre, notamment sur le catalogue, sur le site internet de la maison de vente, est indiquée comme vendue. Après, effectivement, la société Art Price, donc, qui est quand même spécialiste de l'information sur tout ce qui est vente aux enchères et sur le prix des œuvres, indique que l'œuvre aurait donc... multiplié par deux...
Par mille.
Voilà. Donc, effectivement, d'un côté économique, je ne pense pas qu'il soit de l'intérêt de l'acheteur de demander l'annulation de la vente.
Voilà. Donc, bon. Dernière question. Est-ce qu'on a un avis sur... Est-ce que l'artiste, donc à supposer que Banksy existe, etc. Bon, bref. Est-ce que Banksy avait le droit de détruire son œuvre? Est-ce qu'il avait le droit de dire « Non, ça ne me plaît pas » et de la passer à la broyeuse?
Tu veux répondre, Anne-Charlotte?
C'est une bonne
super
question.
Super spéculation.
Et en fait, ça dépend aussi peut-être un peu de la façon dont on voit le problème. Parce que si on pense qu'effectivement, c'est une destruction d'œuvre, on peut tout de suite se dire que en broyant son œuvre, Banksy a du coup porté atteinte aux droits du propriétaire du support, donc de l'acheteuse. Mais si on le voit comme une création d'une œuvre nouvelle, là, on peut se dire, est-ce qu'il a abusé de sa liberté de création?
On parle de novation maintenant, comment ça marche? Est-ce qu'on attaque? Non, mais c'est ça, on est déjà beaucoup trop long. Est-ce qu'on repart sur tout un truc? Donc, la novation de l'œuvre, qu'est-ce que c'est? Ok, oui, d'accord. Okay. Bon, de toute façon, comme on a commencé par le dire, on peut former que des spéculations là-dessus. Déjà parce que c'est du droit anglais, ensuite parce que nous ne sommes pas dans le secret des dieux, etc., etc., etc. Mesdemoiselles, mes chères consoeurs, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter?
Moi, j'ajouterais que finalement, ce genre de cas, c'est très bien parce que les artistes sont là pour oser, pour être insolents, pour voilà. Donc, quand une fois encore, c'est pas une association comme on peut le voir dans le cinéma qui part en croisade au nom de l'ordre moral, moi, ça me gêne pas.
Pareil, je trouve que c'est très intéressant comme cas et ça interroge. Enfin, les gens s'intéressent au marché de l'art et ça pose davantage de questions.
Voilà. Et aux droits.
Exactement.
Ils vont peut-être écouter l'émission du coup.
C'est super. Merci de nous avoir suivis pour cet épisode de Besoin de rien, envie de droit. On se retrouve dans 15 jours. Binge.